Au fil des pages. Au fil des pages, une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Édouard Rosset.
Bonjour, une fois n'est pas coutume, je vous propose de parler aujourd'hui de saine nourriture, ou plutôt de sainte nourriture. L'un n'empêche pas l'autre, me direz-vous. Certains font le choix, d'autres concilient les deux. Quoi qu'il en soit, rares sont les repas, qu'ils soient de fête ou non. Rares sont ces repas qui ne recèlent quelques mets savoureux, tout droit venus du ciel, en tout cas au nom évocateur de la bienveillance d'un saint ou d'un bienheureux. Ce sont ces mets savoureux qu'Hélène Renard et Isabelle Garnier nous proposent de découvrir, ou pour la plupart redécouvrir évidemment, à travers un livre intitulé « La cuisine du bon Dieu aux presses de la Renaissance ». Au fil des pages, reçoit Hélène Renard. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez été saluée pour d'autres ouvrages également, d'ailleurs, par les prix Hélène. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Comment, Hélène Renard, vous est venue cette idée de réunir autant de plats que nous pouvons déguster, je dirais finalement, banalement chaque jour ?
Oui, oui, des plats qui ont tous un rapport avec le religieux, en effet, comme vous le disiez. Eh bien, parce que ma consœur en écriture, Isabelle Garnier, était passionnée par les livres de cuisine, était une excellente cuisinière et collectionnait les livres de cuisine. Tandis que moi, je me suis beaucoup intéressée aux mystiques. J'ai écrit deux autres livres sur les mystiques et les saints. Et moi, je collectionnais les livres de saints. Et un jour, devant le feu de cheminée, en train de déguster un bon Saint-Émilion, bien chaud, bien chambré, on s'est dit, mais pourquoi ne faisons-nous pas un livre sur tout ce qu'on mange et qui pourrait être sain.
Donc l'osmose s'est faite autour du feu de bois le soir. Et alors là, les idées ont jailli, les recettes. Vous avez recueilli en fait légendes populaires et anecdotes croustillantes, parce que tout ce qui est mentionné dans cet ouvrage vraiment recèle, de la partie aussi historique parfois.
Oui, c'est plutôt de l'histoire des mets, du terroir en vérité. Ce sont les traditions qui sont dans notre pays et qui sont fortement teintées de christianisme, puisque c'était tout de même notre religion première. Et donc ces traditions ont perduré. Beaucoup de produits sont issus des monastères, notamment les fromages. Beaucoup de vins portent des noms de saints, ça tout le monde le sait. Beaucoup même de gâteaux, de desserts, de fruits, enfin de poissons. Oui.
Alors vous avez parcouru, arpenté, je dirais, la France entière, les monastères, vous êtes descendu dans les bonnes
auberges. On n'a pas bougé les bibliothèques. Alors je vais vous dire comment on travaillait, comme le rat des villes et le rat des champs. J'étais le rat des villes, puisque moi, habitant en Paris, je fréquentais toutes les bibliothèques, donc j'ai cherché partout dans tous les livres de terroir et de cuisine et d'histoire de la nourriture. Et puis Isabelle, qui habitait la campagne, était donc le rat des champs, et nous faisait l'écriture derrière. Donc l'écriture, c'est la patte d'Isabelle, et le contenu, ce sont mes recherches.
Le binôme parfait en quelque sorte.
Voilà.
Alors, je ne les citerai pas toutes, mais Coquille Saint-Jacques, le Saint-Émilion que nous avons cité, le Saint-Pourçain, fameux, vénérable Saint-Pourçain, le Saint-Nectaire, mais aussi le Kyr, la bûche de Noël, l'œuf de Pâques, et le tout arrosé du champagne Dom Pérignon. Est-ce que, Hélène Renard, nous pouvons chiffrer, vraiment évaluer le nombre de ces plats aux origines plus que nobles, je dirais, en France ?
Oh, entre 300 et 400. Mais je ne prétends pas que notre livre soit exhaustif, parce que il est toujours possible que dans un terroir on n'ait pas découvert encore la tradition. Là j'ai encore par exemple un monsieur du Pinot des Charentes, un vigneron du Pinot des Charentes, qui m'a expliqué qu'une part du tonneau, quand elle s'évapore, s'appelle la part des anges.
Ah.
Alors je ne l'avais pas mis dans mon livre parce que je ne le savais pas.
Tel l'encens.
Donc je prépare une deuxième édition pour compléter.
Eh bien, nous l'attendons avec impatience, en tout cas. Alors, on va passer en revue, si vous le voulez bien, quelques mots et quelques noms. Le mot poisson, tout d'abord. Alors là, bon, ce n'est un secret pour personne. Hein, en grec, ictus, condensé des initiales de Jésus Christus, Théou, Ouios Soter. C'est-à-dire Jésus-Christ.
Vous parlez grec couramment.
Jésus-Christ,
bravo.
Non, malheureusement, Jésus-Christ, fils du Dieu sauveur. Alors là, le ton est donné.
Oui, c'est-à-dire qu'on sait que la forme du poisson était un signe de reconnaissance des chrétiens entre eux. Et il dessinait ce poisson, notamment dans les catacombes, où on en a retrouvé beaucoup. Donc, le poisson. Néanmoins, peu de poissons portent des noms de saints. Le Saint-Pierre, évidemment, et qui a
et
comme
quel saint,
et quel saint, oui, mais qui a, comme tout le monde le sait, un assez vilain aspect parce que il a une tache, une grosse tache noire sur le dessus. Et alors on dit que c'est parce que Saint Pierre, l'ayant péché, a mis son pouce dessus et que c'est là la trace du pouce de Saint Pierre qui fait cette tache noire sur le poisson.
Et le poisson a lui-même peut-être aussi beaucoup pleuré. On ne sait pas s'il a les.
On ne sait pas, mais en tout cas, il est bon. C'est un très bon poisson.
Hélène Renard, dites-moi un peu, dans les viandes, la Saint Cochon, qu'est-ce que c'est ça?
Ah, la Saint Cochon, c'est une fête qu'on fait dans les campagnes quand on tue le cochon. Alors là, il n'y a pas de monsieur qui s'appelle Saint-Cochon, rassurez-vous.
Heureusement. Mais enfin, le plat peut être délicieux, excellent également. Si l'on fait dans le plus léger maintenant, alors les fruits de la passion, est-ce que ça fait directement référence à la passion du Christ?
Ça fait référence, non pas les fruits, les fleurs qui vont donner les fruits. Quand on les regarde, il y en avait dans le jardin d'Isabelle, donc on a examiné ça de très près. Quand on les regarde, on voit des espèces de clous et on y voit la forme effectivement des instruments de la passion du Christ. Ce ne sont pas des fruits de la passion amoureuse, ce sont des fruits de la passion souffrante.
Mmh. La référence religieuse est vraiment partout, hein, même si un saint ne donne pas son nom aux fruits ou aux mets. Si l'on reste justement dans les fruits, la clémentine par exemple, d'où vient cette clémentine?
La clémentine a été, comment pourrait-on dire, cultivée, inventée par les pères blancs d'Algérie et notamment le père Clément auquel on a donné le nom de clémentine.
Alors, il y a également, mais cette fois-ci dans les légumes, le fenouil, hein, qui était recommandé au Moyen-Âge par Saint Hildegarde von Bingen, Hildegarde de Bingen, religieuse versée dans les plantes. Et puis, le haricot. Alors là, je vous lirai volontiers, Hélène Renard. En voilà un, le haricot, qui a fait du chemin. Rapporté d'Amérique par Christophe Colomb, il parvint en Italie entre les mains du cardinal Jules de Médicis. Celui-ci le confia au chanoine Pierre Valeriano, qui, en ces terres de Belluno, tenta le semis, bêcha, désherba, palissa, cueillit, écossa, fit mijoter, goûta et finalement, évidemment, se régala. Il fit partager son enthousiasme à son entourage qui adopta cette spécialité exotique, si bien que lorsque Jules de Médicis, devenu pape, négocia le mariage de sa nièce Catherine avec le duc d'Orléans et donc futur roi de France de Henri II, et on glissa dans la corbeille de la mariée un sac de ses succulentes légumineuses.
Quelle histoire!
Fabuleuse aventure!
L'histoire de haricots! Hein.
Fabuleuse aventure, effectivement. Il y en a d'autres comme ça, Hélène?
Oui, tous les produits n'ont pas, mais il y a des grandes aventures de produits, en effet. Il y a des aventures d'alcool, parce qu'il y a aussi toutes ces aventures extraordinaires, des élixirs des bons pères, vous savez, la chartreuse, l'arquebuse de l'ermitage, toutes ces boissons qui sont à la fois, on ne sait pas très bien si elles sont réconfortantes ou médicinales, mais en tout cas, elles font du bien. Isabelle et moi, on était assez portés sur le frigolet, qui est la liqueur des moines de l'abbaye du Frigolet, Saint-Michel de Frigolet, en Provence, et qui est la liqueur dont se régale le père Gaucher dans Alphonse Daudet et les lettres de mon moulin. Donc voilà, nous avons
tout se retrouve.
Un peu essayé le frigolet.
Alors, les fromages, bon là, on ne va pas s'éterniser puisqu'il y en a visiblement plus de 365. Vous avez mené l'enquête et vous confirmez.
En France, mais seulement une trentaine qui portent des noms de saints tout de même.
C'est déjà beaucoup.
Voilà. Mais beaucoup de fromages qui sont fabriqués par les abbayes. Effectivement, on doit les fromages au fond à l'implantation des monastères en France, c'est-à-dire à partir du 9e siècle, parce qu'il fallait avoir les moyens d'avoir des terres, des bêtes en grand nombre, les moyens de conserver le lait et le fromage. C'est un moyen de conserver le lait, le moyen de le vendre après. Donc, c'était aussi une monnaie d'échange. Donc, le fromage, beaucoup de fromages qui n'ont pas des noms de saints sont néanmoins formés par les moines des abbayes.
Et c'était un mets de riche, entre guillemets, à l'époque où tout le monde pouvait déguster son bon fromage, qu'il porte le nom d'un saint ou pas d'ailleurs.
Non, je pense que c'était effectivement plutôt réservé à une certaine classe sociale, parce que il fallait pouvoir se le procurer, c'était la difficulté.
Est-ce que c'est un phénomène typiquement français, ça, ou est-ce qu'il y a d'autres exemples à l'étranger? Évidemment, on connaît l'Église, enfin la France fille aînée de l'Église, donc terre de saints, terre de bons plats aussi, les saints leur ont donné le nom. Est-ce que on doit rattacher cette tradition culinaire au nom de saint au fait que la France soit fille aînée de l'Église?
Absolument. Oui, absolument. Je crois que c'est tout à fait particulier à la France. D'abord parce que nous avons fait quelques recherches. Alors, on sait qu'il y a des produits qui portent des noms de saints en Italie. Tout le monde connaît le Lacrima Christi et le jambon San Daniel. Mais il y en a relativement peu. Il y a quelques plats en Espagne, un ou deux au Portugal. mais très très peu par rapport à tout ce qu'on peut trouver en France. Alors je n'en ai pas trouvé évidemment en Angleterre, mais j'allais dire évidemment c'est un peu méchant. Mon évidemment est un
mais
peu
non,
méchant, un peu chauvin.
En tout cas, la France vous réserve encore et nous réserve de nombreux plats à découvrir. Hein, vous le disiez tout à l'heure, vous n'avez vraiment pas visé l'exhaustivité à travers cet ouvrage, donc nous aurons l'occasion d'en lire d'autres. Donc il y a les plats et puis les patrons dans l'art culinaire. Est-ce que l'on peut en citer quelques-uns ?
Ah oui, alors là, on a quelques surprises évidemment parce qu'on ne les connaît pas tous. Alors qu'est-ce qu'on peut citer ?
Saint-Antoine par exemple. Saint-Antoine.
Alors il s'agit bien sûr, il y a deux Saint-Antoine comme vous le savez. Il y a Saint-Antoine de Padoue qu'on prie quand on a perdu quelque chose, qui est un moine du XIIIe. Et il y a Saint-Antoine le Grand, celui du désert, celui qui est tenté. Les peintres représentent toujours tenté par des nourriture qui est effectivement accompagnée d'un cochon. Et donc,
c'est le patron des charcutiers.
Voilà, c'est le patron des charcutiers. Mais les pieds de porc à la Sainte-Ménehould, je veux dire, c'est simplement parce que c'est fabriqué à Sainte-Ménehould. Je suis allé voir, il y a eu une Sainte-Ménehould, elle a son vitrail à Sainte-Ménehould, mais les pieds de porc, ce n'était pas son invention à elle. Bon. Simplement l'invention des charcutiers du lieu.
Bon, et vous y avez goûté, évidemment.
Ah,
vous avez succombé.
Ah, oui, succombé.
Alors, Saint-Vincent, c'est le patron des vignerons. Saint-Amand.
Voilà. Saint-Amand,
c'est liquide. Je crois que c'est les brasseurs, le patron des brasseurs.
Ah oui, c'est un saint du Nord. Oui, voilà. Parce qu'il y a aussi toute l'histoire des bières qui est importante. Il y a les vins, mais il y a aussi les bières. Toutes les bières portent des noms d'abbayes. Oui. J'ai même trouvé une bière, parce qu'avec Isabelle, on faisait les rayons des supermarchés, une bière qui s'appelait le fruit défendu et qui avait dessus une étiquette avec Adam et Ève, évidemment dans une tenue d'Adam et Ève, ce qui est normal, et qui, oui, donc elles ont des connotations. Et alors nous avons découvert aussi un camembert merveilleux qui s'appelle, il faut tout de même le faire, Euromoine.
Ah.
Hein, c'était la dernière trouvaille,
avant
voilà.
L'heure.
Comme quoi les étiquettes avec des moines et ça, c'est vendeur parce que les gens ont confiance, ça inspire confiance.
Il n'y a pas de saint camembert.
Mais il n'y a pas de saint camembert.
Il y a le sapeur, mais il n'y a pas de saint. Alors on citera encore saint Michel, patron des biscuitiers, saint Honoré, patron des boulangers, évidemment. Est-ce que ces noms ne disparaîtront pas, Hélène Renard, finalement, avec la vague de globalisation et d'harmonisation européenne ?
Saint McDonald, vous n'y croyez pas.
On ne l'a pas encore vu, mais naîtra-t-il un jour ? Naîtra-t-il un jour ? Certainement pas. Est-ce que c'est à souhaiter au moins ? Mais est-ce que, justement, ces harmonisations, est-ce qu'il y a une crainte quelconque ? Est-ce qu'une épée de Damoclès pèse sur ces appellations ?
Il y a une épée de Damoclès, oui, parce qu'il y a des normes qui sont imposées, par exemple sur les fromages, qui sont très, très rigoureuses et qui risquent de faire disparaître un certain nombre de produits. Je suis qu'à moitié optimiste, en effet. Je craindrais que certains produits du terroir disparaissent à cause de normes d'hygiène, qui n'ont jamais d'ailleurs rendu malade personne, mais enfin, on ne sait jamais, il faut
alors,
faire
si
attention.
Alors, si le goût disparaît, au moins gardons ces beaux noms de plats que nous retrouvons donc dans votre ouvrage, je rappelle le titre, La cuisine du bon Dieu, fêtes et recettes, célébrations et traditions du terroir, c'est aux presses de la Renaissance. Évidemment, inutile de préciser que vous donnez les bonnes recettes, les meilleures à la fin de cet ouvrage. En tout cas, c'est un livre à posséder dans une bibliothèque, très précieusement, mais aussi dans une cuisine, une excellente cuisine, c'est redondant, et une cave pour le vin et le fromage. Merci beaucoup Hélène Renard. À très
bientôt.
Merci à vous. J'aurai l'occasion de vous inviter de nouveau prochainement dans Au fil des pages pour évoquer un autre ouvrage coécrit avec Isabelle Garnier, Les grands rêves de l'histoire. À très bientôt, merci.